طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, ce que je veux démarrer, inshallah, on va commencer directement avec le sens du hadith. علم الحديث. Tout d'abord, on va faire une, ça sera une petite introduction aujourd'hui pour le sens du hadith. Qu'est-ce que c'est que la définition du hadith ou bien de la sunna? Donc c'est des synonymes. Quand on dit hadith ou bien on dit la sunna, ça veut dire, chez la plupart des savants du sens du hadith, ça veut dire la même chose. C'est tout ce que nous est rapporté. Tout ce qu'il nous est rapporté. Parce qu'on nous rapporte. La personne aujourd'hui qui dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait ou a autorisé. Kullu ma qalahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou fa'alahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou aqarrahu. Na'am. On trouve aussi, on nous dit, il y a une terminologie que al-khabar et al-athar. On dit, il est rapporté dans le khabar ou il est rapporté dans le athar. Donc on a le khabar ou on a l'athar. Al-khabar ou al-athar. C'est-à-dire, tout ça, on utilise aussi le mot ja'a fil khabar ou bien ja'a fil athar pour parler de ce qui est rapporté aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On utilise aussi cette terminologie. C'est presque des synonymes, mais avec, avec des différences, on les verra au fur et à mesure. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, quand on dit athar, c'est-à-dire, il est rapporté sans précision. C'est-à-dire, mais quand on dit il est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est presque sûr que c'est identifié, ça appartient à la sunna. Donc quand on dit afil khabar, ça sous-entend que c'est possible que le prophète a dit que ce n'est pas encore vérifié. C'est de ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Le Coran, tout le monde sait, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est bien d'accord. Le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les paroles viennent d'Allah Azza wa Jal et les sens viennent d'Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet le Coran comme il l'a entendu textuellement par Sidna Jibra'il. On est bien d'accord. C'est-à-dire, avec Fatha, Kasra, Dhamma, ponctuation, il n'y a rien, il transmet vraiment au degré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment donné. Quand il recevait la révélation, il se précipitait à la transmettre sur place aux sahaba, de peur qu'il oublie quelque chose. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rassuré, il a dit, ne te précipite pas, de toutes les façons, Allah azza wa jal a fait que tu vas apprendre ça, et tu le connaîtras, tu peux le transmettre après. Laisse entendre toute la révélation. Ce que tu dis, laisse le verset terminer et tu transmets. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il entendait, il transmettait en même temps, pour qu'il a peur d'oublier quelque chose comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir, tout ça je vous parle, on n'est pas dans ce sens du Coran, on le fera un jour, inshallah. Mais, pour parler de la différence, parce que je vais parler du hadith al-Qudusi. D'accord? Donc, on a le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, toutes ces paroles-là, le Coran, textuellement, comme il l'a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Sidna Jibra'il, que ce soit les mots ou que ce soit le sens. Aywa. Maintenant, revenons à ce qu'est le hadith al-Qudusi. Hadith Qudusi, aussi, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la différence entre lui et le Coran, c'est que le hadith Qudusi, le sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles sont formulées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Est-ce que le Coran, les paroles sont formulées par le prophète? Non. Les paroles par Allah, le sens par Allah. Bon, par contre, le hadith Qudusi, donc, les mots choisis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui choisit les mots. D'accord. Ce sont les formulations du prophète, mais le sens, le contenu, c'est Allah azza wa jal qui a dit. Mais puisque c'est un hadith qu'on s'est rappelé, remarquez qu'on l'a appelé hadith, on n'a pas dit autre chose, on a dit hadith. Vous êtes bien d'accord avec moi? Les hadiths qudusi. Il y a le mot hadith. Bien qu'on dit, on sait qu'il vient d'Allah. Puisque c'est un hadith, il n'a pas la même, automatiquement la même chaîne de transmission que le Coran. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un vous dire ce verset, il est daif, hein, il est hassan? Ça n'existe pas. Tout le Coran est authentique. Il est révélé, il nous est arrivé par des chaînes de transmission hyper authentiques. Vous êtes bien d'accord? Donc c'est indiscutable. Un verset coranique, c'est indiscutable. Tout le Coran, il est indiscutable. Par contre, le hadith qudusi, il est discutable. Donc il a le même statut que le hadith normal. Ça peut être un hadith authentique, un hadith faible, un hadith bon, hassan, il est bon. Donc, on doit discuter sa chaîne de transmission comme l'autre hadith. Comme le hadith le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est pas parce qu'il nous est venu d'Allah Azza wa Jal. Il faut savoir par quelle chaîne il est venu, là, il nous est arrivé. Il nous dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي. D'accord? Mais qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? C'est-à-dire qu'on applique sur lui la même discussion ou critique de chaîne de transmission, etc., que le hadith normal. D'accord, Inch'Allah? Donc on a plusieurs hadiths qudusi, hein, vous allez trouver dans les ouvrages, chez Bukhari, chez Muslim, dans les livres de Sunna, vous allez trouver le hadith qudusi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il ordonnait à quelques sahaba d'écrire la révélation au Coran Karim. Ce n'est pas tout le monde qui écrivait, vous savez, les sahaba, ce n'est pas tous qui étaient chargés de cette mission, d'écrire le Coran. Donc le Coran, il y a la révélation, ils écrivaient. Donc on a un nombre limité de sahaba qui sont des spécialistes dans l'écriture du Coran Karim. Zayd ibn Thabit, etc. Et parmi ces gens-là qui écrivaient, il y avait Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Que les chiites critiquent, c'est que Mu'awiyah, c'était parmi Kutab al-Wahy. C'était parmi les sahaba qui écrivaient le Wahy. Donc il y avait plusieurs sahabis, mais limités, qui écrivaient le Coran Karim. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran Karim aux compagnons qui l'écrivaient. Donc ils n'écrivaient pas, la révélation n'est pas venue directement du premier verset, sur Fatiha, sur Sortenas, comme ça. Donc chaque sourate, vous avez des versets qui sont révélés. Verset numéro 30, donc quand un verset est révélé, le professeur Smith, il leur dit, mettez-le dans ta sourate. Ce verset-là, mettez-le dans ta sourate. Sur ce verset-là, c'est tel sourate. D'accord? Donc c'est lui qui leur a indiqué. Taïf. Donc il leur ordonnait de l'écrire. Donc vous avez, ils écrivaient sur des pots de chèvres, sur du bois, sur de la pierre. Donc ils gardaient cela. Donc vous avez une partie, elle est chez ce sahabi-là, une partie, elle est chez ce sahabi-là. Donc d'accord, on a vu ça. Alors pour le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit au début aux sahaba de l'écrire. Il faut le mémoriser. En général. Je vais dire pourquoi en général. Il leur a interdit par peur que ça se mélange avec le Coran. Parce que les gens, il leur a autorisé d'écrire le hadith, alors j'ai entendu le professeur réciter, ensuite il a dit, il est où le Coran? Le professeur a récité un verset, ensuite il a dit ceci, cela. Donc le prophète, il leur dit, ça c'est le Coran, Karim, écrivez-le. Ce que je vous dis, ceci, cela, c'est un hadith. D'accord? Donc on n'écrivait pas le hadith, on le mémorisait. Et ce n'est pas tout le monde qui avait la capacité de mémoriser le hadith. Ce n'est pas tout le monde qui transmettait le hadith. D'accord? Mais il y avait quelques sahabis qui écrivaient quand même le hadith des Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était spécifique. Donc on a le Mourassalat, c'est-à-dire les correspondances du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'écrit. Il avait beaucoup de correspondances avec des notables, avec des rois, etc. Alors les sahabis, ou bien les sahabas qui écrivaient la révélation parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de nombre de 40. Il y avait 40 sahabis qui étaient autorisés, ils avaient la faculté d'écrire la révélation. Donc on a dit qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé, jusqu'au moment où l'écriture du hadith elle est venue après. Quand le Coran, il a été réuni par Sayyidina Asma ibn Affan. Déjà, Sayyidina Abu Qasdir, c'est lui qui a commencé à ramasser un peu, c'est-à-dire une partie, on a vu ça dans le Sofir, une partie qui était chez tel, Sayyidina Abu Qasdir, il a essayé de toutes les parties du Coran qu'il y a chez les gens, il les rassemblait chez lui. Ensuite, Sayyidina Abu al-Khattab. Ensuite, Sayyidina Uthman ibn Affan, il a rassemblé tout ce qu'il y a comme Coran chez les Sahaba, et le rassemblé dans un seul livre, et que c'est pas n'importe qui vient et nous ramène, voilà, moi j'ai une partie de Coran, etc. Il faut, ce sont des Sahaba, il faut qu'il y ait au moins deux témoins qui témoignent sur tel verset que c'est du Coran, etc. etc. D'accord. Donc à l'époque, Sayyidina Uthman ibn Affan, une fois que le Coran reconnu, authentifié comme tel par tous les Sahaba, il a fait des exemplaires. Donc tout ce qui n'était pas reconnu, ou reconnu comme cher, c'est-à-dire, qui n'était pas reconnu, hein, c'est-à-dire, il y a une discussion, ça c'est pas, il y a un certain, quelques riwayats, comme les riwayats de Ibn Mas'ud, donc on ne les prenait pas comme riwayats authentiques. C'est riwayats chers, parce qu'on a les riwayats, les qira'at, enfin, qira'at célèbres, on a qira'at qui ne sont pas célèbres. D'accord? Elles n'ont pas le degré authentifié qu'elles sont rapportées par des chaînes de transmission, on va dire, mutawatira. Plus de 20, 30, 40, etc. Donc rapportées par 2 ou 3, etc. Donc, on l'apprend, c'est les riwayat shadda. Malheureusement, le dernier est décédé, ça fait, qui rapportait les riwayat shadda, les riwayat connus, de lecture du Coran, on le trouve dans le monde musulman. Un grand savant égyptien, on l'a perdu, ça fait l'année dernière, qui transmettait les riwayats shadda. C'est extraordinaire quand même. Il rapportait les lectures du Coran qui ne sont pas célèbres, dont on n'a pas le droit de lire la prière, ni d'étirer le commandement, mais ce sont des riwayats qui existaient à l'époque des Sahaba, mais elles ne sont pas au degré de mutawatir, qui sont rapportées par un grand nombre important. Donc une fois que le Coran Karim a été rassemblé par Sina Ahmed Blafan et tous les Sahaba qui l'entouraient, ils l'ont authentifié, il a fait des exemples, je crois que c'était quatre grands manuscrits, et on a un manuscrit qui existe jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il est à Istanbul, ma connaissance, hein, Istanbul, hein, dans un grand musée. Donc il a envoyé aux grandes régions du monde musulman ces manuscrits-là, afin de faire des exemplaires, parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque, etc. Donc, un exemplaire de chaque grande région pour faire des exemples. C'est-à-dire que tu as une en Asie, tu as une à Midi, une à Basra, etc. Donc, on a un exemplaire, on va faire une centaine. Des centaines, de ces centaines-là, on va faire des milliers, etc. pour propager le Coran al-Karim. D'accord. Mais on a gardé les originaux. Le Coran original, on l'a entre les mains, qui était écrit par les Sahaba à l'époque, c'est Uthman ibn Affan. Et cette question-là d'authentification du texte coranique, du manuscrit du texte coranique, qui date depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est très importante dans la discussion avec les autres religions. Où les textes ont été écrits postérieurement, beaucoup plus tard. Selon Saint Jean, selon Saint Thomas, selon. D'accord? Où on a même, sans parler des discussions entre les protestants et les catholiques, on a tout un chapitre qui n'existe pas. Les autres croient que Marie, l'ascension de Marie, les autres ils ne croient pas, etc., etc. Donc le texte, il est très important. Question manuscrit qu'on a entre les mains. On l'a jusqu'à aujourd'hui. À cette époque-là, puisque le livre saint, il est entre les mains, on le touche, il est vérifiable, tous les musulmans ont accès. Non seulement ils le connaissaient déjà, ils l'ont mémorisé, les musulmans, les prêtres sahaba, et tous, la plupart ou tous, connaissaient le Coran al-Karim, ils l'ont mémorisé, les tabi'in aussi. Mais en même temps, on a, c'est-à-dire le Coran al-Karim, comme copie. Là, à partir de là, les sahaba n'ont plus peur de commencer à écrire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque déjà on commence à avoir peur de le perdre puisqu'il n'est pas écrit. D'accord. Donc on a commencé à cette période-là d'écrire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y a nécessité, puisque déjà le Coran il est déjà protégé. Tout le monde, la plupart des musulmans l'ont mémorisé. On l'a écrit. Il est écrit dans les, c'est-à-dire propagé dans le monde musulman. On a des copies. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur que se mélange avec le Coran Karim, puisque le Coran on le connaît. Et la sunna, il y a au contraire, il y a nécessité de l'écrire, puisque on commence à oublier quelques hadiths ou ne pas reconnaître quelques hadiths, et encore, on assiste à des gens qui commencent à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, cela. Parce que on a les sectes et les groupes sont apparus à l'époque, c'est Othman ibn Affan, et à l'époque, c'est Ali, les sectes et les groupes ont commencé à surgir. Les Khawarij, les Khawarijites, les chiites, les Mu'tazilites sont venus après. Donc on a quelques sectes, quelques groupes égarés, ou bien des gens qui n'appartiennent pas à des sectes, qui vont mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et inventer des hadiths. Donc d'où la nécessité d'écrire le hadith. Après on va voir, assister à des savants qui vont commencer à authentifier le hadith à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que déjà, à l'époque des sahaba, ils se transmettaient entre le hadith. Ils se transmettaient les sahaba entre le hadith. Mais ils se connaissent entre eux, tel sahabi, bon, pas de problème, l'entend, il se fait Abu Huraira, qu'est-ce qu'il ne connaît pas, il prend le hadith d'un autre sahabi. Mais à un moment donné, on commence à avoir des gens qu'on ne connaît pas. Et celui-là dit, c'est qui lui? Donc il nous rapporte un hadith. Il dit, voilà, il a dit tel hadith, tel hadith. Donc on a commencé à, déjà à l'époque des sahabas, on commence à vérifier ce qu'ils ont. Ils ont commencé à appliquer la science de vérification, authentification du hadith. Ils ont commencé déjà à l'époque, ils ont commencé à parler de isnad. Ils disent entre isnad. T'as entendu ça de qui? Déjà à l'époque des sahabis, ils disaient, toi t'es qui toi? Ils disent, moi je viens de Samarkand. Ce hadith, qui te l'a dit ce hadith là? D'accord? Si c'était eux entre des gens de Médine, il n'y a pas de problème. Donc dès le départ, les sahabas, dès la première génération, ils ont commencé à appliquer la science du hadith sans connaître ces règles, etc. Parce que les règles, ils vont être développées plus tard. Vous allez rigoler un peu, parce que je vais vous citer le nom de celui qui a écrit le premier livre de hadith, l'imam Ar-Rahmamurzi. Ar-Rahmamurzi. Bon, déjà, moi, j'arrive même pas, il faut que je le retrouve, là. Ar-Rahmamurzi, je pense. Donc c'est lui, je vais le réécrire tout à l'heure, c'est lui qui a écrit le premier livre dans la science du hadith. Ar-Rahmamurzi, voilà. Ar-Rahmamurzi. Je vous dirai, Inch'Allah, il est né où, etc., etc., etc. Alors, de cette période-là, donc ça a commencé déjà, les sahabas entre eux, c'est-à-dire en faisant connaissance d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas, ils ont commencé à leur demander d'où vous avez entendu ce hadith, d'où la discussion du célèbre Isnad. Walidalika, l'imam Ibn al-Mubarak, qui est un grand tabi'i, disait, comme il est rapporté dans l'introduction du commentaire de l'imam al-Nawawi sur Sahih Muslim, disait Al-Isnadu min ad-din wa lawla al-Isnad laqala man sha'a ma sha'a. Donc la transmission fait partie de la religion. La transmission, ici c'est pas la transmission, chacun dirait ce qu'il veut. D'accord, ça, on trouve ça dans Imam Nawawi, il nous rapporte dans l'introduction dans son commentaire de Sahih Muslim. Pour dire que la transmission était les bases de notre religion. Non. Alors la transmission du hadith, comment elle se faisait? La transmission du hadith, déjà, se faisait ce qu'on appelle bis-sama', c'est-à-dire le sahabi a entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le dit à celui qui l'entend. Chacun le transmet par voix orale. On l'écoute. Sama. Alors, il y a plusieurs façons de transmettre le hadith. Alors, vous allez voir que des gens posent des questions, des fois, qui prouvent de leur ignorance. Mais quand ils posent des questions, ils les posent comme défi d'une façon orgueilleuse. Quand on pose une question à quelqu'un, on lui dit, toi tu as une ijaza mais tu n'as pas appris chez tel. C'est une preuve qu'il ne connaît pas, ce monsieur qui a posé cette question, quel genre d'ijaza qui existe. il ne connaît pas que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont transmis par Ijaza. Même si tu n'as jamais rencontré cette personne, il te le transmet par Ijaza. Mais pourquoi il le transmet à tel, pas à tel? C'est ça la question. Bah, les grands savants, ils sont là, va demander, Inch'Allah. Abu Rudda, ou l'imam Kattani, ou quelqu'un. Alors, parmi la transmission du Coran al-Karim, il y a 8. On va les écrire. Ensuite, on va détailler chacune. Excusez-moi, transmission du hadith. Alors, on a parlé de la première façon de transmission, ça s'appelle Vissama'a. C'est-à-dire en l'écoutant. D'accord? Alors, il se peut, la façon de celui qui entend le hadith, quand il l'entend, il l'entend du cheikh, soit il le lui lit directement d'un livre, le prophète Sahih al-Bukhari, il lui lit, parce que lui, il l'a entendu de son cheikh. C'est pas forcément qu'il connaît Sahih al-Bukhari par cœur, mais lui, il a entendu de son cheikh Sahih al-Bukhari, donc lui, le cheikh récite et l'élève entend, écoute. Ou bien il prend le Sahih al-Bukhari de sa main et il suit avec lui. D'accord? Et à cette façon-là, comment? Non, toujours dans la première. Quand je passe à la deuxième, je vous le dirai. C'est-à-dire, je suis en train d'expliquer comment il l'entend de lui. Il entend de lui en lisant un livre, le cheikh lit un livre, ou bien il entend de lui par mémorisation, c'est le cheikh, il a mémorisé le hadith, l'élève, il l'a entendu. C'est-à-dire, ce sont deux façons. De toute façon, il l'a entendu de la bouche du cheikh, ou bien du transmetteur, de Rawi, c'est-à-dire celui qui a rapporté à celui qui l'a écouté. D'accord? Regarde. Foulan al foulan. D'accord? Et là, pour savoir s'il l'a entendu de lui, alors celui qui l'a entendu, il dit, j'ai entendu. Ça met à tout. On comprend qu'il l'a entendu. D'accord? Parce qu'il y a des façons où il veut, il n'a pas entendu, mais il veut nous faire croire qu'il l'a entendu. Pour ne pas, le hadith ne soit pas faible. D'accord? Parce qu'il faut que la science soit, on va voir, ça c'est une introduction, on va voir quelles sont les conditions des hadiths authentiques. Donc il nous fait allusion qu'il a entendu, mais il n'a pas entendu. Donc, il a entendu du cheikh, mais qu'est-ce qu'il nous fait savoir qu'il l'a entendu? Il va utiliser quelques mots, par exemple, il nous dit « haddathana ». Quand vous dites « haddathana », c'est-à-dire, il nous a parlé, il nous a dit, d'accord? Il nous a rapporté, mais c'est lui qui parle. Quand il dit « haddathana », hadith, il nous dit, d'accord? Ou bien « akhbarana », akhbarana, il nous a informé, tel nous a informé. Ou bien « vakaralana », il nous a cité, tu dis « flan » nous a cité, il a cité telle chose. Tout ça, c'est des mots qui prouvent que tel a entendu de tel. On est en train toujours d'expliquer le premier cas de transmission. Alors tout cela veut dire qu'il a entendu de l'autre. Il a entendu. Akhbarana, haddathana, sami'atu. D'accord. Mais quand tu dis selon tel, ça ne veut pas dire que tu l'as entendu. Tu dis selon. D'accord. An foulan, ça ne veut pas dire que c'est possible que un troisième t'a dit, tu l'as sauté puisque comme il est faible, d'accord, on va voir ce truc-là. Oui. La deuxième façon de transmission, c'est la lecture. Donc la première façon, on a dit, c'est on entend un cheikh rapporter, soit le cheikh, soit le rapporteur du hadith. La deuxième, c'est la lecture. C'est-à-dire que c'est l'élève qui va lire et le cheikh va entendre. La plupart du temps, c'est ce qu'on a fait avec Cheikh Abou Naïm. C'est-à-dire, lui, il a entendu le Bukhari de son cheikh, qui a entendu son cheikh. Il a lu le Bukhari sur son cheikh, et son cheikh a lu le Bukhari. C'est l'inverse, c'est-à-dire, c'est pas le cheikh qui va lire le Bukhari, c'est l'élève qui va lire le Bukhari, et le cheikh, il entend, il le corrige. D'accord? Donc ça, on l'a fait avec Cheikh Abou Naïm, Sahih al-Bukhari.
Non.
La première, c'est le cheikh qui te transmet. Il te dit, j'ai entendu tel, a dit tel, 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 tel. Ou bien c'est le cheikh qui récite le Sahih Bukhari, et l'élève entend. La deuxième, c'est l'élève qui récite et le cheikh lui corrige, il l'approuve. D'accord? Donc il lui corrige, il lui dit, puisque lui, il le connaît. Il connaît le livre, il a assimilé, il connaît ce qu'il y a. Alors il lui dit, vas-y, parle. Ensuite, il arrête. Il le corrige, la prononciation, il dit, non, c'est pas comme ça, ou bien il explique des choses, etc. Ça, c'est une façon de transmission. La deuxième, ça c'est la deuxième. Donc c'est très important, ça, que ce soit dans la lecture des ouvrages, ou bien la transmission du hadith. Transmission d'un livre, ou bien la transmission du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on est dans le hadith. Alors, dans cette lecture, il peut y avoir aussi, vous avez deux étudiants qui sont l'un à côté de l'autre, c'est l'un qui a lu, pas l'autre. Mais il était présent, en la présence du cheikh, il a entendu. C'est pas lui qui lisait, c'est l'autre qui lisait. Ils ont le même degré. Puisque tous les deux, c'est des élèves du cheikh. S'il y en a 20 qui sont là, ils ne peuvent pas tous lire en même temps. Il y en a un qui est en train de lire, mais les autres sont en train d'entendre. Donc ils ont la même capacité de transmission de celui qui est en train de lire. Puisque le cheikh, il est là, il corrige. T'as compris? Donc vous avez un qui lit et 20 qui écoutent. Et le cheikh, il entend. Le cheikh, il corrige. Donc tous ceux qui étaient là présent, en présence de celui qui lit, ils ont la faculté de c'est comme s'ils ont reçu la transmission du cheikh, même si ce n'est pas eux qui ont lu. C'est clair? Troisième façon de transmission, c'est l'ijaza. La ijaza. Ça peut transmettre par autorisation. Hein. Alors dans l'ijaza, et là on parle toujours de la source du hadith. On parle toujours du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la transmission du hadith. Alors si on parle de la transmission du hadith, par extrapolation, on applique ça sur la transmission d'un livre de tel à tel. D'accord? Un livre de Muwatta jusqu'à l'imam Malik, ou bien un livre Jawhara par rapport à l'imam Al-Qani, etc. Donc on est dans la source du hadith, on parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit tu l'as entendu d'un cheikh, tu le rapportes. Soit tu as lu le livre que tu veux transmettre du cheikh, et le cheikh te corrige, soit le cheikh t'autorise à transmettre ce que lui a été autorisé de transmettre, de son cheikh qui lui a autorisé à transmettre, tel livre ou tel hadith, etc. C'est la transmission par ijaza. Et tu n'es pas forcé d'avoir entendu ni lu ces ouvrages-là, ces hadiths-là de ton cheikh. Ça s'est écrit noir sur blanc par les grands savants du hadith. Alors celui qui dit, ah il a entendu, il n'a pas dit, il n'a rien, il n'a pas, c'est une preuve qu'il n'a pas lu la science du hadith. C'est clair et net. Donc l'ijaza, c'est l'autorisation de transmission du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans l'avoir entendu directement, ni l'avoir lu au cheikh qui le corrige. Mais bien sûr, le cheikh ne va pas donner autorisation à n'importe qui. C'est qu'il a vu la capacité. C'est qu'il a, c'est son élève, il le connaît, etc. Ou bien c'est un savant comme lui, il connaît ce... Donc il l'autorise à transmettre, il sait qu'il est quelqu'un de apte, qu'il est quelqu'un de confiance. Donc je t'autorise à transmettre tout ce que moi, voilà mes ouvrages, voilà mes transmissions, je te les donne, tu peux les transmettre. C'est une transmission authentique, authentifiée, etc. Il ne peut pas autoriser d'autres si lui n'est pas autorisé. D'accord? Donc il faut, avant qu'il l'autorise, il faut qu'il soit autorisé. Tel que, par exemple, le cheikh dit à l'élève, il précise, tel élève, je t'autorise la transmission de Sahih Muslim. Tu transmets Sahih Muslim de moi. Est-ce qu'il a lu Sahih Muslim de lui? Il n'a lu aucun hadith Sahih Muslim de lui. Mais lui, il a eu cette autorisation de son cheikh. Lui aussi, il n'a lu aucun hadith avec lui. Mais il sait de quoi il parle. Il sait que ce cheikh, il a la capacité, il comprend, il sait que quand il va transmettre, il le transmet de façon avec confiance et compréhension. Sahih Muslim ou le Bukhari ou Abu Daoud, ou bien les livres de la Sunna. Tous les livres de la Sunna. Allez hop, les 10 livres de la Sunna, je t'autorise de transmettre tous les livres de la Sunna. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire, toi, tu nous rapportes le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par chaîne de transmission authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu dois préciser, tu ne dis pas j'ai entendu Sahih Muslim de tel qu'il a entendu de tel. Non, il faut dire je transmets Sahih Muslim. D'accord. Il y a une différence, on a dit, que celui qui entend, ou bien celui qui a lu, ou bien celui qui transmet. Mais c'est une transmission authentique. Attention. Les chouyoukhs, ils ont leur cachet, ils ont leur truc. C'est comme les diplômes. Hein. C'est un diplôme écrit, moi, je suis tel. Ma chaîne de transmission, elle est tel, jusqu'à tel savant, avec cachet, et tu cites toute sa chaîne de transmission jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tel ouvrage jusqu'à tel savant qui l'a écrit. D'accord. Alors, on a ça c'est le troisième. Hein. La quatrième façon de transmission, de transmettre le hadith ou bien les ouvrages du cheikh, ça s'appelle le munawala. La munawala. Munawala. Alors, le munawala, c'est que le cheikh prend des hadiths ou bien il prend un livre, il dit à son élève, tiens ce livre-là, rapporte-le de moi. Il lui donne un livre que le cheikh a écrit, il ne l'étudie pas avec lui, mais il lui dit, ce livre-là, tiens-le, je t'autorise à le transmettre de ma part. C'est lui, c'est le cheikh qui l'a écrit. Il ne l'a pas étudié avec son élève. C'est des hadiths qu'il a, il les donne à l'élève, il lui dit, nawalahu, c'est-à-dire il lui a donné. Donc il lui dit, transmis ce livre de moi. Mon livre, je te le donne, tu peux le transmettre. Tu peux dire, ce livre, je l'ai pris et je le transmets de tel. Donc la chaîne, quand tu as... C'est le sir dans tout ça, c'est avoir la baraka c'est-à-dire, tu es enchaîné par une baraka, et tu as une autorisation des savants et des aouliyas qui t'authentifient. Tu fais un cachet, tiens, roh. Alors, c'est comme si on remet en cause celui qui autorise. C'est-à-dire, si on remet en cause l'autorisé, c'est qu'on en remet en cause celui qui l'a autorisé. Donc ça s'appelle la munawala. Alors la munawala, elle est une sorte de ijaza. Elle ressemble à l'ijaza. C'est pour ça que des savants, ils ne font pas de distinction entre munawala et ijaza. Mais ils appellent ça munawala parce que nawalahu en arabe veut dire il lui a donné. D'accord. Il lui donne son livre, il lui dit transmets ce livre-là de moi. Bien qu'il ne l'a pas étudié de lui. D'accord. Ça va le munawala. Ça c'est la quatrième façon de transmission. Oui. Hadith ? Quel livre ? Oui, il y a une différence, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu parles de la différence de... C'est-à-dire la discussion de la chaîne, c'est toujours la même. Discussion, on discute la chaîne de hadith comme on discute l'autre chaîne. Sauf que dans la science des hadiths, on est strict. Parce qu'on est hadith Nabi, donc on étudie les transmetteurs, on étudie... Mais les ouvrages, non, puisque les ouvrages, on connaît qui est-ce qui les a écrits, mais bon. On les a entre nos mains, on sait que ça c'est le Bukhari, ça reste tel à rapporter de tel, c'est des ijazat, d'accord, d'autorisation de transmission. Alors, la cinquième, c'est la transmission par écriture. Un, il écrit à un autre, il ne le rencontre même pas, d'accord. Il ne l'a pas rencontré, ça se passe par exemple entre deux savants, entre deux chouyours, entre un élève et un cheikh, il lui écrit. Il lui écrit, il lui dit, voilà, dans les cas qu'on a vus, ce sont des cas où les gens se sont rencontrés. Il l'a entendu, il lui a donné ijaza, il lui a donné un livre. Là, c'est par écriture, ils ne se sont pas rencontrés. C'est une sorte de transmission authentifiée par les savants. Il faut... Avant de dire des bêtises, il faut lire les ouvrages, il faut connaître ça.
Par exemple, ce genre de transmission, est-ce que ça
le donne
fort, par exemple, que celui qui va lire
au cours de chez... Pas du tout. C'est normal. Celui qui entend, ça n'a pas la même valeur. Elle a plus de valeur que celui... C'est pour ça que je suis les étapes que je suis en train de passer, du plus fort au plus faible. D'accord. Donc l'ordre chronologique du plus fort au plus faible. Mais ça ne veut pas dire qu'il est classé troisième, qu'il n'est pas valable. Il est autant valable que l'autre, mais l'autre il est plus fort. D'accord. Donc par écriture, donc si le cheikh qui écrit à un élève, ou bien à un autre cheikh, ou bien à un autre savant, ou bien l'élève qui écrit à son cheikh, lui dit j'aimerais bien transmettre de toi tel hadith, est-ce que tu m'autorises? Ou bien lui dit je voudrais transmettre de toi tel ouvrage. Est-ce que tu m'autorises de le transmettre en ton nom? Lorsqu'il lui écrit, il lui dit, je t'autorise. L'imam al-Qadi Ayyad, la plupart de ces riwayats, qui c'est le Qadi Ayyad, c'est pas n'importe qui. C'est par autorisation par écrit. On va voir que l'imam al-Bukhari, il rapporte des riwayats par écrit. On va l'écrire, les riwayats de l'imam al-Bukhari. Alors, dans... vous avez écrit que ça veut dire la riwaya. Bon, il y a quelques savants, ils disent la riwaya par écrit, il faut qu'elle soit, qu'il y ait avec elle, c'est-à-dire un mot qui nous fait comprendre qu'il l'autorise, une riwaya avec ijaza. Donc d'autres savants, ils ont dit non, c'est de n'importe quoi, puisqu'il l'autorise de rapporter, si tient directement, il sort de ijaza, sinon il ne l'aurait pas accepté. Ça, Houlin. Alors, la transmission par écriture, donc c'est un courrier qui se passe entre deux rawis, deux chouyours, ou bien un élève et un cheikh, où l'un autorise l'autre de transmettre des hadiths ou un ouvrage. D'accord? Alors on donne un exemple. Dans Sahih al-Bukhari, dans le livre de Al-Iman wa al-Nudhr. La foi est vœux et serment, si vous voulez, entre les deux. D'accord? Il faut chercher une traduction. Je ne sais pas comment traduire. Hein? Il faut revoir. Il y a un chapitre de l'imam al-Bukhari. Alors, dans ce chapitre-là, l'imam al-Bukhari a écrit un courrier, il n'a pas rencontré, à qui? À Mohammed ibn Bashar. Il lui demande qu'il l'autorise à rapporter son hadith. Il lui dit... j'aimerais bien que tu m'envoies le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas rencontré. Envoie-moi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Mohammed ibn Bashar envoie par courrier à l'imam Bukhari. Et l'imam Bukhari rapporte de l'imam Mohammed ibn Bashar sans l'avoir rencontré. Dans ce hadith-là. Il lui a envoyé par écrit. Est-ce que pour autant on dit le hadith, oh, ce hadith du Bukhari ici, il est faible? Ben non, il n'est pas faible. Parce que le Bukhari connaît Mohammed ibn Bashar. Il connaît sa valeur. Donc il lui transmet. Mais faut Michel. Aussi, on a dans Sahih Muslim, ça c'est des exemples. Vous avez, il n'y a pas que cet exemple-là dans Sahih Bukhari. Vous avez d'autres exemples. Idem dans Sahih Muslim. Et vous avez dans plein d'autres ouvrages de la Sunna où on trouve cela. Et c'est fréquent entre les savants. La riwaya de l'Rimari par rapport à Zahed al-Kawthari, etc. Donc il n'a pas étudié tous les ouvrages, il l'autorise à transmettre. Alors l'imam muslim nous rapporte qu'il écrivait à d'autres rapporteurs, il leur disait, est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous avez des hadiths que vous rapportez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous avez des hadiths d'autres gens que lui considère comme des gens de confiance, avez-vous des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à me transmettre, que je puisse transmettre? Donc ces rapporteurs lui disent, oui, on a des hadiths, et ils lui transmettent ces hadiths-là. Et lui, il les rapporte d'eux. Il dit, voilà, je vous rapporte ce hadith-là, qui m'a été transmis par écrit de tel savant. Et ça, on le trouve chez l'imam Suyuti. C'est l'imam Suyuti qui nous dit ça, dans son ouvrage Tadrib al-Rawi. Tadrib veut dire entraînement. Al-Rawi. L'entraînement du rapporteur du hadith. Tadrib al-Rawi. D'accord? Tadrib al-Rawi. De l'imam al-Suyuti. Page 147. Alors, tenez-vous bien de ce que je vais vous dire. Ça va être un peu bizarre. Mais, subhanallah. Quelques savants spécialistes du hadith ont dit que cette façon de transmettre par écrit, la transmission par écrit, c'est-à-dire un savant qui voit un savant voit un cheikh ou bien son élève, il lui envoie par écrit, tiens, tu transmets, il l'autorise de transmettre de lui par écrit, en lui donnant aussi sa ijaza, cette façon de transmission, elle est plus forte que l'écoute. Chez quelques savants du hadith. Qu'est-ce qu'il dit ça? L'imam Ibn Kathir dans son livre Al-Ba'ithu Al-Hafif. Bon, n'importe qui. Al-Ba'ithu Al-Hafif d'Ibn Kathir. C'est en arabe. Al-Ba'ithu Al-Hafif. Al-Hafif. Ibn Kathir. C'est le même qui a fait le tafsir. Hein? C'est l'imam Ibn Kathir. Alors, page 140. Imam Ibn Kathir, il dit pour lui, il dit que, c'est lui qui dit, hein, il dit qu'il y a quelques savants qui disent que si la transmission, elle est faite par écrit, non seulement elle est faite par écrit, mais aussi avec une ijaza, avec autorisation de transmission, dans sa ijaza, c'est plus fort que le sama. Pourquoi, d'après vous? Parce que le fait que tu as entendu du shaykh, ça ne veut pas dire qu'il t'a autorisé. Tu as assisté comme si ça arrivait avec l'Albanie dans le, ce qu'il dit, oh, il a le Cheikh Tabakh, il n'a pas eu le Cheikh Tabakh, il a assisté à un cours général de Cheikh Tabakh, et le Cheikh Tabakh a dit, bon, vous pouvez transmettre de moi. Donc il a juste entendu. D'accord? Mais le fait d'avoir une autorisation écrite, c'est plus argumenté. Donc tu as une autorisation, tu as quelque chose qui est transmis par écrit, plus autorisation, plus ijaza. C'est-à-dire, tiens, transmets de moi cela et je t'autorise à le transmettre. Donc pour quelques savants, bien sûr quelques savants, c'est beaucoup plus fort que la transmission orale seulement. Sinon, s'il y a transmission orale avec ijaza, c'est beaucoup meilleur. D'accord.
Quand tu transmets ça de moi, je t'autorise.
On a utilisé le mot je t'autorise. En fait, c'est pas ça. C'est-à-dire, je te donne mon autorisation, pas de transmettre. Que tu es apte à transmettre de moi. C'est-à-dire, tu me dis, en fait, tu as des hadiths professeurs sallam, ou tu as un livre, je voudrais que tu me le passes. Je te le passe. Et toi, tu le passes à un autre. Mais je t'ai pas autorisé. Je t'ai pas dit, tiens, toi, tu peux transmettre de moi, il n'y a pas de problème. Alors, sixièmement, c'est que le cheikh dit, eh bien, le rapporteur dit, à un disciple ou à un autre cheikh, tu transmets de moi ceci, cela, et tu peux aussi transmettre tel ouvrage que moi je transmets. Sans que lui montre la preuve qu'il transmet. C'est-à-dire, il l'autorise de transmettre ce que lui... On connaît qu'il transmet ces choses-là. Il lui dit aussi, tu peux transmettre aussi les ouvrages du tel, parce que moi aussi je les transmets. Ça s'appelle al-i'lam. Donc septièmement, sixièmement, al-i'lam. On a un cheikh, il transmet, on sait qu'il nous transmet des ouvrages, ou bien des hadiths, etc. Mais on n'a pas la connaissance qu'il transmet d'autres livres. Alors le jour où il nous dit, voilà, vous transmettez tout ce que je vous ai appris, mais aussi, vous pouvez transmettre de moi les ouvrages de tel savant. Ça, on va dire, ah, ça c'est nouveau, on ne savait pas qu'il transmettait les ouvrages de tel savant. Donc nous, on a le droit de transmettre non seulement les ouvrages de notre cheikh, mais aussi les ouvrages de l'autre savant via notre cheikh. Est-ce que vous avez des chouyoukh qui interdisent à quelques élèves de transmettre d'eux? Tu es mon élève, il n'y a pas de problème, mais je t'interdis de transmettre de moi. Tu ne transmets pas de moi. Parce qu'il sait qu'il a peur que s'il transmet de lui, il va déformer, ou bien il a peur que... D'accord. Ça existe. Alors, septièmement, par testament. Bil-wasiyya. Par testament. C'est-à-dire que le cheikh laisse un papier en disant, après sa mort, tiens, on a trouvé ce papier-là du cheikh. Voilà, je suis tel, machin, etc. Après ma mort... j'ai pas eu le temps d'écrire, ou bien j'ai pas eu le temps de parler avec tel, je l'autorise à transmettre tous mes écrits, ou bien tel livre, ou bien ce hadith de moi. Donc transmission par testament. Il laisse un livre qui dit que, il laisse un papier. Huitièmement, il y a ce qu'on appelle al-wijada. Oui, wijada. Vient du mot wajada, c'est-à-dire trouver. Wijada, c'est-à-dire que. C'est-à-dire que l'élève trouve un manuscrit ou un livre que lui ne connaissait pas du vivant de son cheikh. Mais après, il le découvre. Il découvre, parce que c'est comme soit c'est des choses entre eux qui se connaissent, il l'a autorisé de transmettre de lui, mais tiens, il découvre un manuscrit, lui il connaît l'écriture du cheikh. Vous allez trouver un hadith avec la main du cheikh. Le cheikh ne lui a pas parlé de cela. D'accord. Donc il a le droit, l'autorisation de dire, voilà, je transmets cet ouvrage-là que j'ai trouvé du cheikh, puisque j'ai l'habitude de transmettre de lui, mais après avoir authentifié que c'est vraiment du cheikh. D'accord ? Donc il transmet le hadith ou bien l'ouvrage en question à d'autres, après l'avoir authentifié que vraiment, bon, l'authentification c'est toute une science, hein, des manuscrits. Maintenant, les wahhabites de temps en temps, hop, ils nous sortent un manuscrit, on a vu plusieurs manuscrits avec des falsifications, et tu ramènes un manuscrit avec une écriture moderne. L'écriture elle est moderne. On sait qu'à l'époque abbasside, le qaf, le fa, comment s'écrivait, lui te dit voilà, on a vu, hein, on avait plusieurs cas, ou bien ça se voit comment ils ont coupé, ils ont collé, machin, on les voit. Avec Cheikh Zahri, il nous a sorti, il a scanné, il nous a montré vraiment des énormités pas possibles. Donc il y a une science d'authentification du manuscrit et de l'écriture, etc. Et des ouvrages. Le cas de l'Ibn, de Cheikh Abul Hassan Ash'ari, par exemple, actuellement, il n'est pas authentifié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échelle de transmission. Jusqu'à l'imam Abul Hassan Ash'ari. On parle de l'Ibn qui est entre les mains. Il n'y a personne qui nous dit qu'il l'a étudié. C'est tel que tu l'as étudié. C'est ce livre-là qui l'a rentré les mains. Chacun, tu dis, bon, je l'ai acheté dans quelle bibliothèque, mais bon, le manuscrit. Il y a 4 manuscrits, ils sont coupés. On ne sait pas d'où elle vient. D'accord, ils sont coupés. Il n'y a aucune qui remonte à l'imam Abul Hassan Ash'ari par chaîne de transmission. Alors, on remarque que ces façons de transmission, ces façons-là dont on a parlé, c'est des façons de transmission. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se transmettait pas seulement par tout cela pour revenir à la transmission du hadith, se transmettait de cette façon aussi. Donc les chaînes de transmission du hadith qu'on va trouver dans les ouvrages se transmettaient de toutes ces façons-là. On a bien compris. Donc ils ne s'en transmettaient pas seulement par de bouche à oreille, se transmettaient aussi par écrit. Se transmettaient diverses façons, les différentes façons qu'on a trouvées. Et le cheikh peut se transformer en un élève et l'élève en cheikh par rapport à un autre. C'est-à-dire l'élève qui a pris du cheikh, lui aussi il devient cheikh à transmettre à l'élève. On a bien compris. C'est-à-dire que Sidna Abu Bakr Sadir, il était élève quand il a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il va le transmettre à un tabi'i, c'est lui le cheikh et le tabi'i il devient l'élève. On est bien d'accord. Et ce tabi'i, quand il va le transmettre à son élève, il dit, bien, lui le cheikh, il est là, c'est l'élève, etc., etc. Vous avez compris? Exactement, c'est ce qu'on appelle dans la science du hadith, riwayat al-qarinan. On appelle ça, bon ça va ouvrir un peu les terminologies, al-mudabbaj. Bon, ça s'appelle comme ça, al-hadith al-mudabbaj. C'est-à-dire al-mudabbaj, moi j'ai un hadith que j'ai entendu de mon cheikh, je le transmets, et toi tu me transmets un hadith que tu as entendu de ton cheikh. Donc on dit, on est mudabbaj. C'est pour ça que vous avez dit Ahnaf, je suis désolé, hein, l'imam Malik il a transmis des hadiths à Abu Hanifa. On a des arguments sur ça, on va les donner. Donc il est son cheikh dans quelques hadiths. Peut-être, il y a sûrement de... Moi je ne connais pas des hadiths que l'imam Malik a reçus de Abu Hanifa, mais on a des hadiths que l'imam Malik a transmis à l'imam Abu Hanifa. Ça n'empêche pas que l'imam Abu Hanifa sûrement a appris à l'imam Malik beaucoup de choses concernant le qiyas. Je ne doute pas dans les discussions, des débats qu'ils ont eu entre eux. Donc, la science du hadith, elle est, si vous voulez, c'est deux grands pôles. Donc, il y a science du hadith, riwaya, il y a science du hadith, diraya. Riwaya et diraya. Alors, on étudie dans la science de la science du hadith riwaya tout ce qui nous est rapporté, on a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de paroles, d'actes ou d'autorisation. Par contre, la science du hadith diraya, c'est la science qui concerne l'étude des rapporteurs afin d'accepter ou de refuser le hadith. Imaginez cette science, subhanallah, ça fait, plus on va étudier, plus vous allez... C'est comme si on rentre doucement, doucement dans un enseignant. Et là, on n'a pas touché encore l'eau, on est juste dans le sable, on regarde. Et plus on va s'approcher, plus on va découvrir, c'est tellement profond, tellement immense, tellement vaste. La science du hadith d'Iraya, elle comporte plusieurs sciences. Donc on avait deux grands pôles, D'accord ? C'est comme si vous avez science du hadith, vous avez diraya, riwaya. Nous, on va étudier science du hadith, diraya, qui va comporter plusieurs disciplines. Et la science du hadith, riwaya, comportera aussi plusieurs disciplines. Ça, c'est juste la science du hadith. La science du hadith, diraya, riwaya, déjà, les savants du hadith se spécialisent. Les spécialistes en riwaya, les spécialistes en diraya. Ensuite, en diraya, les spécialistes dans une discipline. Et ainsi de suite. Alors, pour dire aujourd'hui, bon, tel il est muhaddif. Oui, muhaddif. Est-ce que c'est vraiment muhaddif? On va voir ensuite. On va voir ce que ça veut dire un muhaddif. On va voir ce que c'est un muhaddif. Alors, il y a plusieurs sciences dans la science du hadith. Elle englobe plusieurs sciences, la science du hadith diraya. Premièrement, on a la science de... Alors, comment traduire la science? Ilm al-jarh wa ta'dil. Ilm al-jarh wa ta'dil. C'est-à-dire, al-jarh, c'est-à-dire la critique de ce qui nous pousse à les critiquer ou bien de ce qui nous pousse à dire des éloges sur eux. Al-jarh vient le mot jaraha, c'est-à-dire blessé. D'accord? La blessure, elle n'est pas seulement avec les flèches. Hein? Tu peux blesser quelqu'un avec la parole. Les blessures des flèches peuvent se renfermer, mais les blessures de la parole, des fois, ne se renferment pas. Faites attention aux blessures des langues. Des fois, ça blesse, ça reste. Donc, cette science étudie les rapporteurs du hadith. C'est-à-dire, on a une chaîne de transmission. Rapporté par tel, 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 tel. On va déjà voir chacun d'eux, on va l'étudier à part. Tout ça pour arriver à voir est-ce que le hadith il est authentique ou non, il est bon ou non. Mais faut Inch'Allah. On va déjà étudier chacun, ensuite on va voir la relation entre eux. C'est pas parce que celui-là il est digne de confiance, celui-là il est digne de confiance. On va voir. Celui-là, il a vécu entre lui et lui, il y a un siècle et demi, donc il y a un problème là. Donc il y a quelqu'un entre autres qui a été sauté, ou bien... Vous voyez? Mufoum? Alors, subhanallah, cette science-là, c'est, vous savez, c'est, cette science de Jarh al-Ta'dil, il y a des gens qui connaissent que discrédité. Aujourd'hui, que discrédité. Ah, tel il a, il ne voit jamais le côté positif. C'est-à-dire que nos savants, un rapporteur, il l'étudie, ensuite ils ont une fiche sur lui. Celui-là, il a étudié tel, il a étudié tel, il a étudié tel, etc. Mais son défaut, il va te donner son défaut, mais attention. Quand ils vont citer les défauts, parce que vous avez des ouvrages de Jarh al-Ta'dil. Vous avez des ouvrages, plein d'ouvrages, où les gens, les rapporteurs sont recensés. Hein. Mais ils ne vont pas étaler la vie de la personne. Voilà, tu as le 20 machin, avril, on l'a vu avec une femme, hein, le 31, il a bu de l'alcool. Non, c'est pas comme ça. Ils vont résumer, même quand ils vont parler de son défaut, ils vont parler d'une façon, on dit qu'ils disent qu'il y a un défaut, mais sans le blesser ou divulguer ses péchés. Très important. Ce qui nous intéresse, c'est pas étaler nous sa service, oui c'est entre lui et Allah, ce qui nous intéresse, nous, est-ce qu'on prend de lui ou non? On ne va pas dire, ah non, celui-là il boit de l'alcool, c'est un menteur, machin, etc., hop, c'est un pourri. Non, ils vont pas, bien qu'ils connaissent de lui tout ça, mais ils disent, celui-là, hadafasiq, il est pervers, c'est qu'on sûr qu'il est pervers, machin, etc., donc on fait attention. Ou bien ils disent, c'est quelqu'un de bien, mais il ne mémore pas bien. Ensuite, le degré de mémorisation, ils vont dire, est-ce que c'est quelqu'un qui oublie beaucoup, il oublie un petit peu, ou de temps en temps il oublie, ça lui arrive d'oublier, ou bien il a commencé à oublier à partir de l'âge de 70 ans. Mortalet. Donc tout ce qu'il nous a rapporté avant l'âge de 70 ans, c'est bon. Mais ce hadith-là, non, il l'a rapporté quand il a commencé à oublier. Donc vous voyez, ou bien ils vont dire, celui-là, il est égaré, parce qu'il appartenait à tel secte. Sans plus. Donc ils n'étalent pas les péchés des gens. Sont très attentifs de garder le karama, c'est-à-dire la dignité de l'homme. C'est très important. Mais ils font ça parce qu'ils sont obligés afin d'accepter de refuser le hadith. Il y a donc des spécialistes, c'est des grands spécialistes de la science de Jarh al-Ta'dil. Parmi ces grands spécialistes de la science de Jarh al-Ta'dil, il y avait des sahaba. Alors il y a Sayyidina Abdullah ibn Abbas qui est mort en 96 de l'Hégire. C'est un sahabi. On a un autre sahabi. Il s'appelle Anas ibn Malik, mort en 93 de l'Hégire. Ça, c'est parmi les sahaba. Dans l'époque des tabi'in, on a l'imam Sha'bi, l'imam Sha'bi qui est mort en 104 de l'Hégire. Ce que vous savez, un spécialiste de la science du hadith, il peut se référer à ce spécialiste de Jarh al-Ta'dil. Il dit, au fait, toi, tu es spécialiste que dans cette discipline. Ça ne te concerne pas la science du hadith. Toi, tu restes dans ton... Toi, tu es un spécialiste, tu nous dis tel homme. Mais ce n'est pas toi qui va sortir et nous dire, voilà la conclusion. Non, c'est un autre qui va... Qui est plus... tu vois, c'est comme si c'est des disciplines. Ensuite, on a le grand médecin qui chapeaute, c'est lui qui va... Alors, parmi les tabi'in, on a l'imam Sha'bi mort en 104 de l'Hégire. Et on a aussi Ibn Sirin. Ibn Sirin qui est mort en 110 de l'Hégire. On a aussi l'imam Al-A'mash. L'imam Al-A'mash mort en 148 de l'Hégire. On a l'imam Shu'ba mort en 160 de l'Hégire. Et on a notre grand imam Malik, mort en 179 de l'Hégire, qui était connu par, c'est-à-dire il était très célèbre par la connaissance des gens qui rapportent les hadiths, etc. Le Jarh al-Ta'dil, etc. Bon, on va citer quelques d'autres. Hein. On a aussi l'imam Ibn al-Mubarak, qui est mort en 181. On a Ibn Uyayna, mort en 197 de l'Hégire. Alors, on a un autre qui est un grand spécialiste. Il s'appelle, bon, ça va paraître bizarre, mais bon, il s'appelle comme ça. Il s'appelle Abdurrahman ibn Mahdi. Donc, c'est un grand spécialiste de oui, je pense, oui. Abdurrahman ibn Mahdi, ça, vraiment, c'est un grand spécialiste de la science de créditer ou discréditer les rapporteurs du hadith. Il est mort en 198 de l'Hégire. Abdurrahman ibn Mahdi. Alors, il y a d'autres que je vais citer. Le summum, le plus grand savant de cette science. Le plus grand savant de cette science, c'est le maître à penser de cette science. Dites-moi si vous avez entendu parler de lui. Il s'appelle Yahya ibn Ma'in. Alors, c'est le grand... Quand Yahya ibn Ma'in dit tel, il est discrédité, il n'y a rien à dire. Il s'appelle Yahya ibn Ma'in, mort en 233 de l'Hégire. Retenez ce nom-là. Yahya, hein, 233 de l'Hégire. Aussi, on a l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est mort en 241 de l'Hégire. Maintenant, on va citer quelques ouvrages, c'est très important de citer quelques ouvrages écrits par des savants qui regroupent les rapporteurs des hadiths ainsi que leurs, s'ils ont critiqué ou accrédit, c'est-à-dire, comment on dit, autrefois avec ce mot-là. Jarrahoum ma'adalouhoum, votre français fatigue. Jarrahoum ta'adil, c'est-à-dire on les rend crédibles ou on les critique. Donc il y a des livres, alors ça me fait rire parce que l'Albani, rahmallah ta'ala, quand il commence à faire une discussion de hadith, il va se baser sur un ou deux ouvrages. Ben écoute, un des ouvrages, il se peut qu'il ait critiqué ici, il n'est pas critiqué là-bas. Ou il se peut que celui-là qui l'a critiqué, il n'a pas expliqué sur quoi il est critiquable. Et pourquoi, et quand. Dans un autre ouvrage, donc si tu te bases sur un ou deux livres seulement, tu risques de ne pas être objectif dans ta critique ou dans ta... C'est-à-dire que tu vas être subjectif dans ton analyse. Et c'est ça son problème. L'un des problèmes du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. D'accord. Alors, parmi les ouvrages de référence dans la science du Jarh wa Ta'dil, on va dire de la critique et de la crédité, on a un ouvrage très très célèbre. Ça s'appelle Tabaqat ibn Sa'd. Tabaqat. Ce que ça veut dire, Tabaqat, c'est-à-dire les couches. Tabaqat, c'est-à-dire chaque chaîne de transmission, c'est-à-dire à chaque fois vous avez génération. Tabaqat, hein, la géologie. Génération. Tabaqat ibn Sa'd, les Tabaqat. Parce que lui, il est Tabaqat ibn Sa'd. de l'imam Ibn Sa'd, bien sûr, Zuhri al-Basri, qui est mort en 230 de l'Hégire. Alors, il y a combien de temps ce livre? 15 tomes. 15 tomes. Imam Ibn Sa'd, ça c'est un seul livre qui étudie les rapporteurs du hadith. Chacun, il essaie de voir, est-ce qu'il est crédible, pas crédible, Ça c'est un seul ouvrage, il y a 15 tomes. Il a été écrit en 230 de l'Hégire. Et on l'a jusqu'à présent entre nos mains. L'imam Suyuti, il a résumé ce grand ouvrage, hein, il l'a résumé. Alors l'imam al-Bukhari, il a un ouvrage aussi, Tariq al-Kabir, il a trois ouvrages, ils ont tous le nom de Tariq, qui est vrai, le livre de Tariq de Ibn Kathir. Donc pour l'imam al-Bukhari, il est mort en 256 de l'Hégire. Alors un autre grand imam qui a écrit dans cette science, s'appelle Ibn al-Madini, qui est une référence dans cette science-là. L'imam Ibn al-Madini, mort en 234 de l'Hégire, Ibn al-Madini, mort en 234 de l'Hégire, dans son livre Tariq, c'est-à-dire l'histoire, il ne parle pas de l'histoire, hein, il parle de l'histoire de ses rapporteurs de hadith, il est en 10 tomes, celui de l'imam Ibn al-Madini, mort en 234 de l'Hégire. Ensuite, on a l'imam Ibn Hibban, mort en 354 de l'Hégire. Ils étaient, c'est une bonne question, c'est-à-dire, ces savants-là qui ont écrit, c'était des grands spécialistes en la matière, et c'était des savants reconnus par leur authenticité, par leur foi, par leur crainte. Bien sûr. Ensuite, ils sont, attention, il y a une chose très importante, ensuite, ça n'empêche pas d'autres savants qui vont les critiquer dans leur méthodologie. Ils ne remettent pas en cause leur sincérité, leur science, etc. Mais dans leur méthodologie de la critique ou de l'accrédité, ils vont les critiquer. D'où il va y avoir une divergence des fois sur un tel ou tel rapporteur. D'accord ? On va dire que tel, il est trop... On va dire que Ibn Hibban, il est un peu mou, il n'est pas... L'autre, il est trop sévère. On dit, bon, celui-là, quand tel nous dit, bon, tel rapporteur, bon, ça va. S'il dit, bon, ça va, c'est qu'il est très très bien. D'accord. Vous avez compris. C'est-à-dire, ils ont leur méthode, chacun, dans la critique ou dans la crédité ou la discrédité de... D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils se critiquent, des fois, entre eux. Jamais. Non, ils ne se basent jamais sur la rumeur, ce sont des savants, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours sur des faits vérifiables, etc., etc. C'est toute une science, hein, attention. Hein. La plupart du temps, ils sont spécialisés que dans ça. Mais comme Imam Ibn Hibban, il est spécialiste dans d'autres sciences aussi. Mais en général, ces gens-là, ils sont spécialistes que dans cette science-là. Alors, on a l'imam al-Bukhari, par exemple, regardez, ouais, il a écrit sur sa science, mais ça ne l'a pas empêché d'être quelqu'un qui authentifie les hadiths. D'accord. Alors, on a, donc, à partir de là, vous avez des savants qui vont écrire 10 livres, ils vont dire, il va écrire 10 livres que des rapporteurs faibles. Voilà, tous les rapporteurs faibles du hadith, ils sont là. Ou bien... Tous les rapporteurs dignes de confiance, ils sont là. Donc on a vu des ouvrages où on peut trouver, c'est-à-dire vous trouvez n'importe qui, c'est-à-dire vous avez des ouvrages, vous cherchez un rapporteur, hop, dans le même livre vous pouvez trouver des faibles, des forts, etc. Mais il y en a d'autres, ils ont dit non, moi je vais écrire un livre où je vais regrouper que les faibles, pour que celui qui va chercher, ah tiens, il est cité dans le livre des faibles celui-là. Ou bien, ah non, celui-là il est cité dans le livre des dignes de confiance. Au fond. Alors, on va citer quelques-uns. Alors, l'imam al-Bukhari, l'imam al-Nasa'i et l'imam Ibn al-Jawzi. Ils ont écrit des ouvrages où ils ont regroupé les rapporteurs faibles ou, on dit délaissés, matrokin, c'est-à-dire abandonnés, laissés. Dans la critique, il y a une hiérarchie. On va voir, Inch'Allah, cette hiérarchie. Les faibles ne sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire, il y a un degré de critique. Un petit peu critiqué, un peu plus, beaucoup plus grave, très grave, trop grave. D'accord? Donc il y a, ils utilisent une terminologie spécifique à cela. Alors vous avez le Bukhari, le Nasa'i, Ibn al-Jawzi, ils ont écrit des ouvrages sur les gens faibles et les gens, les rapporteurs délaissés. Et vous avez d'autres savants tels que l'imam al-Karabisi. Al-Karabisi, c'est un des savants qui est avec Shafi'i. L'imam al-Karabisi. Et aussi l'imam al-Nasa'i, aussi. Donc al-Karabisi, qui est un des proches du Shafi'i, un des savants proches du Shafi'i. Et l'imam al-Nasa'i. Et l'imam al-Daraqutni. Al-Daraqutni. Donc vous avez al-Karabisi, qui est proche du Shafi'i. Vous avez al-Nasa'i. Vous avez al-Daraqutni. C'est bon? Et vous avez al-Suyuti, entre autres. Donc vous avez ces grands savants-là ont écrit des ouvrages pour parler des gens qui falsifient, ou bien qui essayent de on va dire, falsifier, ou bien glisse, c'est-à-dire dissimuler. Voilà, dissimuler, c'est dissimulateur, voilà c'est le mot. Ceux qui dissimulent. C'est-à-dire, et le dissimulateur, c'est qui dissimule, il peut être un dissimulateur grave pour mentir, ou bien juste pour faire passer quelque chose, puisqu'il a un hadith, lui il sait qu'il est authentique, mais dans la chaîne, il y a quelqu'un qui n'est pas bon, mais lui il est sûr que le hadith il est bon, mais afin de faire passer le hadith, allez hop, il nous rapporte le hadith sans cette personne qui est au milieu, qui lui est, c'est-à-dire qui lui est, on va dire, il le gêne, quand il va transmettre ce hadith, les gens ne veulent pas le prendre, puisqu'il y a quelqu'un dedans qui est mauvais, donc il le saute. Donc ça c'est une force, sorte de dissimulation, on va la voir. Par exemple, sans dire tout le nom, il sait que s'il dit, par exemple, An Yahya ibn Amr ibn Kharij, on sait que Yahya ibn Amr ibn Kharij, c'est un menteur. Lui, il nous dit An Yahya. Donc il ne nous dit pas la suite. On ne sait pas ce qu'est ce Yahya là. D'accord. Ensuite, les spécialistes de hadith, ils savent que tel ne rapporte que de Yahya tel. D'accord, Inch'Allah. Alors, donc l'imam Karabisi, l'imam Nasa'i, l'imam Daraqutni al-Suyuti, ils ont écrit des ouvrages sur les dissimulateurs, etc., etc. Donc ça concerne la première science. La première science, ça concerne la critique. Deuxième science, ilm rijal al-hadith. Science des hommes du hadith. Ilm rijal al-hadith. Science des hommes du hadith. La première, c'était le jurh ou le tadil. Maintenant, c'est rijal al-hadith. C'est-à-dire qui sont les grands rapporteurs du hadith, surtout parmi les sahaba. Et vous avez plein d'ouvrages sur cela. On va citer l'ouvrage de l'imam Ibn al-Athir. L'imam Ibn al-Athir. Ibn al-Athir. Ibn al-Athir qui a écrit un ouvrage. Ibn al-Athir, il est mort en 630 de l'Hégire. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Asadul Ghaba fi Asma'i Sahaba. Asadul Ghaba fi Asma'i Sahaba. Ça veut dire Asadul Ghaba. Le lion de la forêt. Asadul Ghaba, le lion de la forêt. Son livre, c'est un lion. Dans la connaissance des Sahaba. Donc c'est un livre. Allez. Asadul Ghaba fi Ma'rif. Donc il garde ce. Qu'on appelle ça la rime.